arpenter les lisières. Deuxième partie, fleuves et frontières. Entretien avec Marie Moreau.
Alors, redis-moi que je me replonge.
Ben, est-ce que c'est une question qui te parle de te demander quelle est l'histoire de ton rapport à l'espace ? Ou qu'est-ce que tu as eu à faire avec les espaces dans ta vie ?
Oui. J'ai assez vite connu des situations d'injustice sociale qui en fait m'ont fait vivre des errances géographiques, mais pas que géographiques, psychiques. Donc pour moi, l'espace, en fait, j'ai toujours ressenti des champs d'injustice dans lesquels je rentrais ou dans lesquels j'étais prise ou qui passaient par moi. Mais je suis quand même perdue, quoi. Bon, comment on fait, en fait, pour se sentir juste, tu vois, au bon endroit, quoi.
Et tu peux raconter quelques-unes de ces errances ? Où as-tu erré ?
Où est-ce que j'ai erré, moi ? Moi, j'ai erré quand on a été... expulsé. Une expulsion, ça veut dire quand on doit quitter son logement alors qu'on n'avait pas envie de le quitter, que c'est un lieu de vie collective, et comme un tissu social, quoi, qui te relie. C'est pas juste l'endroit où tu dors, en quelque sorte. Parce que quand j'ai décidé de faire l'école d'art, ma mère a coupé les vivres économiques, donc je me suis retrouvée, j'avais plus d'argent parce que moi je voulais faire l'école d'art. J'avais pas envie d'aller travailler à McDonald's ou quoi. Mais il y avait les copains qui avaient ouvert un squat, les 400 couverts, et du coup, je me rappelle comment il s'appelait, lui. Maintenant, il s'appelle Anne-Éric, Éric, Bob. Il m'avait dit, t'as qu'à venir vivre avec nous. Du coup, j'avais pris un caddie, j'avais mis toutes mes affaires dans le caddie. Et après, j'ai vécu ce que j'ai toujours appelé l'âge d'or.
Pourquoi âge d'or ?
Mais parce que en fait on était bien, quoi, on s'entraidait, on bataillait, moi j'ai compris plein, mais j'ai tout appris pendant ces 3 ans.
T'as compris quoi ?
J'ai compris l'entraide dans la lutte. En fait, c'est pas très compliqué d'avoir un chez soi, qu'il faut s'entraider, que tu peux construire. On appelle ça maintenant le commun, là. Mais c'est vrai, c'était du... Alors, c'était pas comme un, mais c'était comme plusieurs, en fait. On n'était pas d'accord, mais on n'était pas d'accord du tout. On n'a jamais été d'accord, tous. Personne n'était d'accord. Mais alors, on avait plein de protocoles de jeu pour ne pas être d'accord. On n'arrêtait pas de ne pas être d'accord et on prenait des décisions en n'étant pas d'accord. Ça, c'était quelque chose. On faisait des repères orthonormés. Au sol, on dessinait des grands repères orthonormés pour prendre des décisions. Par exemple, si on allait occuper le parc Paul Mistral au nom des 400, du truc comme ça. Ou si on faisait un foyer d'accueil pour je sais pas quoi et tout, on faisait une réunion. Ok, allez, repères autonomés, parce qu'on n'était pas du tout d'accord, donc ça ne servait à rien de lever les mains. Et on disait, bon, alors le problème, il est sur une ligne, il y a telle tension, c'est-à-dire habiter c'est chez soi, et en fait, ouvrir chez soi et avoir quand même de l'intime, enfin, l'habitat, quoi. Et l'autre, rencontrer et partager des ressources. Et on donnait un cas de figure. Et tout le monde allait se positionner sur le repère orthonormé, dans la pièce, comme ça. Et on écoutait les uns et les autres s'exprimer. Bon, en fait, t'apprends 1000 fois plus que quand t'es en réunion frontale. On écoutait, on voyait... Il y avait, je sais pas, Carole qui se mettait toujours dans un coin à l'opposé. Elle disait, qu'est-ce que tu fais alors, toi là-bas ? Ouais, mais en fait... Puis elle racontait son truc. Et en fait, on voyageait, quoi. On voyageait dans sa position. On sortait des repères orthonormés. On disait, bon, on n'a qu'à le faire. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne le font pas. Ouais, d'accord. De toute façon, vous faites toujours ce que vous voulez. Oui, en fait, c'est vrai, finalement. Mais rien n'a jamais été empêché.
Mais ce repère, c'est un mot un peu compliqué, mais là, ce que tu m'as dessiné avec les bras, c'est une croix. Vous avez dessiné une croix.
Voilà, tu mets sur une ligne, tu mets une valeur, et sur une autre ligne, tu mets une autre valeur. Et tu mets de chaque côté les extrémités de tes valeurs. Voilà. Pendant 3 ans ou 400, moi, j'ai vécu un âge d'or. Et le jour où la police est venue nous expulser, j'ai pas compris, quoi. Moi, j'ai pas eu de violence physique aux expulsions, mais ça m'a tapé sur la tête, ça m'a sidéré. Et je pense qu'après, enfin, j'ai eu des états d'errance, tu vois, où je comprenais plus, en fait, quoi. Ce que je faisais, ce qui se passait, C'était dur, quoi, en fait. Politiquement, moi, j'ai trouvé ça très, très dur, quoi. Et après, j'ai descendu ces fleuves. Mais c'était... j'ai fabriqué des objets flottants non identifiés pour descendre les rivières parce que je me disais que puisqu'on était expulsables, alors on n'avait qu'à partir. On a fait ça à deux avec Christophe, dont j'étais amoureuse, parce que lui, ça lui a parlé. Moi, je disais ça un peu comme ça, en disant on aurait dû partir. Le jour où ils ont dit vous devez partir, on n'aurait peut-être pas dû s'accrocher au toit. On aurait peut-être dû aller tous se fabriquer des embarcations flottantes et puis partir. Puisqu'ils voulaient qu'on parte. Ils disaient, on n'a qu'à partir, ça ferait quoi si on partait? Et par exemple, les fleuves, être sur un fleuve, passer plusieurs semaines sur un fleuve, dormir sur un fleuve, au bord du fleuve, et la journée descendre le fleuve, c'est vrai que d'un seul coup, c'est... ça remet un peu les choses à une autre échelle, quoi.
Est-ce que tu peux raconter à quoi ressemblait cet objet mystérieux?
Le premier ressemble à une sorte de fusée. Moi, je voulais qu'il ressemble à une fusée de conquête spatiale. Mais c'était une parodie à ras de l'eau en descendant le fleuve au rythme de la descente des eaux, quoi. Donc c'était un tas de bidons, quoi, un radeau de bidons, avec un moteur au cas où, pour remonter si on allait sur les barrages, et qu'on relevait sur les berges, qu'on pouvait relever, quoi. Et qu'on a relevé à la toute fin, qui était beau, c'était beau, hein. C'était une sculpture, quoi. C'est une sculpture. Je crois que c'est ça qu'on appelle une sculpture. Enfin, une petite sculpture, quoi. Qu'on a laissé à la fin. On l'a laissé, on a repris notre moteur et on l'a laissé sur la plage. Et c'est vrai que ça m'a fait vivre l'expérience de non plus être à un point donné, mais de comprendre qu'en fait, j'étais sur un véhicule qui était en fait une navette spatiale, quoi. Et c'est la Terre. Et ça, ça m'a soignée. Ça m'a soignée de la sensation d'être... un pion sur la carte politique, quoi. Et donc de pouvoir être expulsé. C'était un changement d'échelle.
Et donc le premier, c'était...
C'était le Rhône, l'Isère et le Rhône. C'était de Grenoble. Et ce moteur-là, après, on l'a pris pour aller en Serbie, Belgrade. Et là, on a redescendu... un fleuve, le Danube, jusqu'à la mer Noire, avec ce moteur-là, qui nous a été racheté par des pêcheurs du Delta. Et on avait refabriqué une embarcation flottante pour descendre le Danube. Parce que, après, moi, j'adorais descendre les fleuves, quoi. T'es dans le creux, quoi. T'es dans la doublure du monde. Alors, dans la doublure du monde, mais il y a toutes les pratiques qui sont dans la doublure du monde. Le cruising... les gamins qui s'enfuient de la piscine et ils vont faire des trucs qu'ils ont à faire mais qui sont à couvert du regard des adultes. Des zones où en fait, qui sont oubliées ou creuses. Mais parce qu'en fait, c'est l'EDF qui exploite l'eau. Et les berges, finalement, elles appartiennent à l'EDF. Mais elles sont quand même au bord des communes, au bord des routes. Donc c'est quand même l'usage, quoi. Tu peux y venir. Alors il y a les pêcheurs, tout le monde est bizarre là-bas. Sur ces berges, tout le monde est bizarre un peu. Moi, je me rappelle par exemple de pluie forte d'un coup, puis d'un coup, t'avais 3 personnes qui se promenaient avec des sacs plastiques sur la tête, avec des corps étranges. Moi, je comprenais pas. tout était bizarre, quoi. Et sur le Danube, pareil, mais bon, sauf que moi, j'étais en pays étranger, je parle pas serbe, après, je parle pas bulgare, je parle pas... Mais quand même, moi, je trouvais que tout était bizarre. Mais bon, il y a un moment, tu sais plus ce qui est bizarre, pas bizarre. C'est plus trop, quoi.
Mmh. Et sinon, c'était différent, le Danube, ou...
Le Danube est moins canalisé. Donc nous, on a passé un barrage, alors que sur le Rhône, on en a passé 11. On a mis le même temps pour faire 500 km sur le Rhône que pour faire 1400 km sur le Danube. Parce que sur le Rhône, on était tout le temps interrompu, tous les jours quasiment, par un barrage.
Ouais.
Ben c'est, l'eau est exploitée, quoi. Et donc, t'as plus de marais. Et ça, c'est terrible écologiquement. Dans les marais, l'eau, elle se nettoie. Il y a toute une faune, une flore énorme dans les marais. Le delta du Rhône, c'est plus vraiment un delta avec la canalisation du Rhône. Hein. Le delta du Danube, il est énorme. Il est immense, quoi. Puis en fait, t'as vraiment la sensation d'être dans les veines du monde, quoi. Tu vois, d'être dans une des veines de cette planète. Et j'étais hyper bien à voyager très lentement, à t'arrêter, à chercher un endroit où dormir, à pousser des herbes, à te coucher là, à repartir sur l'eau, tous les jours, pendant un mois et demi. Et ben, et après t'arrives à la mer, qui est immense, voilà. C'est peut-être ça qu'on appelle la poésie, je sais pas. Et après, après, c'est aussi les jeux de rencontre, en descendant les fleuves. Moi, j'ai rencontré ces gens-là du collectif d'action des sans-abri à Avignon. Parce que le CASA, ils occupaient le tripostal. Ils étaient dans la cour du tripostal, ils avaient 10 Algeco pour loger à peu près 30 personnes qui sinon étaient à la rue. Ils s'étaient dit, bah, nous, du coup, on occupe l'ancien tripostal. Et là, ils avaient fait plein de trucs culture artistique, quoi. Il y avait Catherine Contour, elle avait fait des siestes. Et nous, on a mis une embarcation flottante sur la berge et puis on est venu les voir. Et puis, ils sont venus voir notre embarcation, certains. Et puis là, j'ai rencontré Janine, qui avait ouvert un lieu d'expression où les gens pouvaient venir. C'était un lieu très intelligent, où il n'y avait rien à faire. Un espèce d'espace, quoi, comme elle l'appelait. Et moi, je lui ai dit, mais moi, j'aime bien arpenter. Je voulais... Mais je ne sais pas pourquoi je voulais ça, c'est très bizarre, mais j'avais envie de passer du temps dans la rue, quoi. Et quand même, les gens de la rue, comment ils occupent la ville, quoi, en fait. Et elle m'a dit, bah, viens, tu viens, on fait... Et on a imaginé un truc... On l'a appelé le club des explorateurs impromptus parce que, en fait, jamais personne venait, quoi. Je passais du temps à aller voir des gens et à leur dire que j'avais envie de comprendre par où ils passaient, comment la ville, elle marchait, en fait. Et finalement, ils sont venus et il y a eu un groupe et on a marché comme ça, on a fait des safaris et tout. On marchait pendant 24 heures ou quoi, ou 12 heures. Mais pendant 2 heures, il fallait tenir sans boire. Hein. Ben, les mecs, ils me disaient, non, on va le faire, on va y arriver. Je sais pas si c'était une très bonne idée. En fait, faut peut-être pas faire ça aujourd'hui. Non, mais attendez, j'avais des boîtes de tickets de bus. Je disais, non, mais on s'en fout, en fait. Je vous donne un ticket de bus, vous allez, puis on vous retrouve plus en vous. Mais non, il fallait qu'ils restent avec nous. Voilà. Arrête pas de parler. C'est normal.
Oui.
C'est le principe. Hein. On faisait des repérages, on avait un mur à Kazakh, on avait refait la carte d'Avignon, selon les passages que les copains faisaient, eux, au quotidien, en étant à la rue. Parce que les grands axes, on s'en fout un peu, en fait, et puis les passages, c'est toujours très intriguant, quoi. Il y a une intrigue dans les passages. Je me rappelle de plusieurs personnes qui avaient, par exemple, les endroits où ils dormaient. C'est très intime, un endroit où on dort. Ben, c'était des endroits à côté des grands axes piétons, quoi. Mais disparus, rendus comme des trompe-l'œil, quoi. Ils arrivaient à disparaître, en fait. Ils passaient là, après ils passaient par un endroit pour passer, pour aller boire un coup ou aller dans des WC d'appoint. Et tout ça, en fait, c'est une espèce de... comme un gruyère, quoi, un peu, tu vois. Et après, passer... assez vite, j'ai compris que les secteurs étaient fermés par les personnes, quoi. C'est-à-dire que c'était tel secteur. Enfin, c'était tel secteur aussi parce qu'en fait, ailleurs, ils se sentaient un peu inquiets. Et donc, moi, après, là où je me suis dit que je pouvais peut-être embarquer autre chose, c'était de connecter tous ces endroits qui, en fait, ouvraient sur une autre échelle de ville, mais qui étaient faits du parcours ou de la connaissance d'un secteur par un tel, la connaissance du secteur par un tel autre. Et puis, il y avait des coins où, par contre, les découvertes, je les ai faites parce qu'on arrivait à la limite où, en fait, il n'y avait plus que des champs cultivés. Donc, moi, j'ai dit, bon, on n'a qu'à faire comme j'ai fait avec vous. On n'a qu'à aller voir le mec qui est là, qui fait son champ, et puis on lui demande lui par où il passe. Et du coup, on est passé par le chemin de Baigne-Pied, qui est un long micro-canal à la bordure d'Avignon. Puis ça nous permettait de retrouver l'hôpital, qui est un lieu haut en connaissance pour plusieurs personnes. Et puis après, basculer sur l'île de la Barthelasse, parce que, en fait, il y avait un tel qui avait son campement et son exploitation d'escargots, qu'il allait vendre aux hôtels luxe d'Avignon. Mais c'était... Si, c'est comment tu te dépayses en acceptant de demander à l'autre de rentrer chez lui, quoi. Et dans un chez lui qui, en plus, c'est pas reconnu comme un chez soi. Voilà. Et ben après, ce groupe de mecs-là, ils étaient tellement soudés qu'ils ont monté un groupe d'entraide mutuelle. Ça a perduré assez longtemps, le groupe d'entraide mutuelle. C'était pas mal, c'était bien. Et après, moi, je voulais faire un film sur l'errance, parce que je trouvais ça aberrant que tous ces garçons-là, comment tu fais pour être aussi maltraité, en fait, en errance aussi fort, et avoir cette espèce de puissance de tenir debout, quoi. Et ben, j'ai jamais compris, mais je me suis un peu déniaisée avec eux. Un petit peu. Et avec Tilali, on a fait ce film-là qui s'appelle « Une partie de nous s'est endormie » et qui est une grande errance, en fait, dans Avignon. Mais tous les deux, je crois, on s'est un peu soignés. Mais soigner, je sais pas ce que ça veut dire, mais on a transformé, on a métamorphosé cette question d'être en errance, quoi. En tout cas, il nous raconte ce qui fait l'errance, quoi. Ben, c'est quand même que des affaires de contingence sociale, politique, et des responsables, en fait.
Et... c'est en parallèle avec ça que tu es retourné à Grenoble ou que tu as toujours continué à vivre aussi à Grenoble?
Ouais. Et du coup, à Grenoble, moi je savais qu'à Grenoble, il y avait beaucoup de lieux ressources qui sont assez atypiques et chouettes, dont le Fournil, qui a une histoire très très belle, où ma sœur a travaillé, d'autres personnes que je connais. Et ma sœur, elle dit, c'est des endroits où il y a de la magie. Il se passe des choses magiques. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, des choses magiques. En tout cas, je me suis dit, mais c'est vrai, finalement, je ne sais pas pourquoi je vais que à Avignon, alors que je dors en partie aussi à Grenoble, et qu'il y a ces lieux incroyables. C'est parce qu'en fait, ma sœur, elle m'avait raconté une histoire qui était super belle. Il y a des sets de table en papier au Fournil, et une fois, elle me dit, mais il se passe un truc... où il y avait plusieurs personnes qui ne parlaient pas du tout français, qui ne parlaient même pas spécialement entre elles. Et en fait, ils demandaient, ils arrivaient à se faire comprendre pour demander où étaient d'autres ressources dans la ville. Sur les sets de table, elle disait, il y a un moment dans le repas, à la fin, où les gens poussent leurs assiettes et ils dessinent la ville. Ça m'a intriguée, je suis venue. Et puis, je suis venue plusieurs fois, puis je n'ai jamais vu ce truc-là. Moi, je n'ai jamais eu accès à ça, quoi. Du coup, à un moment, j'ai proposé, donc je trouvais des nappes en coton épais, tu sais, ou en lin. Je demandais aux gens s'ils acceptaient de me dessiner leur géographie de la ville, mais pas que de la ville. Géographie intérieure, qu'on a appelée comme ça. Parce qu'en fait, il y a des gens dessinaient la ville, ils en avaient rien à foutre. Ils avaient envie de dessiner, je sais pas moi... un voyage qu'ils avaient fait. les endroits par lesquels on était passé, quoi. Comme des chemins, des traces de chemin, quoi, des dessins de nos chemins, un peu, intérieurs. Et puis je les brodais après, ces nappes. Je les brodais parce qu'en fait, de jour en jour, les gens, ça change, alors ils comprennent pas, et puis ils savent pas ce que tu fais avec... Donc je revenais, puis je brodais en présence.
Et donc tu brodais par...
Bah, je revenais, je brodais les chemins, parce que
ils
c'était une manière...
sur voilà, le même support, tu
voilà,
brodais, quoi.
Sur la nappe. Ça me permettait de renouer, quoi, de dire, moi, je voudrais montrer, en fait, c'est des cartes. J'aimerais bien qu'on regarde ces cartes-là. Ça permettait de tisser, quoi, de filer le lien, ou je sais pas comment dire. Et après, en le montrant, ça, il y a des personnes qui ont remarqué qu'il y avait beaucoup de représentations de traversées de frontières. Que moi je n'avais pas trop parce que j'avais l'impression qu'il y avait des cartes qui devenaient complètement psychogéographiques, d'autres qui devenaient presque organiques. Tu vois, il y en avait le CHU, il était à côté du foie, quoi. Parce que c'était des cartes qui se faisaient en dialoguant, dans une conversation sur les passages dans la vie. Donc le CHU, bah, c'était un problème avec le foie, il dessinait le foie, enfin tu vois, des trucs comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs cartes qui dessinait des traversées de frontières, de voyages migratoires rendus clandestins, impossibles par les politiques migratoires. Et du coup, bah, y a eu une personne qui travaillait spécifiquement là-dessus en recherche, qui nous a proposé de rejouer des ateliers comme ça, à l'accueil demandeur d'asile. Donc on a fait ça, mais en fait ça a été problématique. Et du coup, après, avec celle avec qui on travaillait, là, qui était chercheuse, Sarah Mikjean, on a décidé de faire des cartes non plus de la traversée rendue clandestine, mais plutôt des malaises. On avait appelé ça « banquet des transformations ». C'était des rendez-vous, on invitait des gens et on faisait des cartes des malaises, donc on travaillait à plusieurs.
Et comment c'est venu ce malaise, tu peux raconter?
Ah ben un jour on a été invité par un festival, on avait montré les cartes brodées, et en fait le directeur de ce festival est venu nous voir, et là il nous lit une lettre de la directrice du laboratoire de chercheurs là, qui dit oui vous allez montrer des œuvres qui ont été produites grâce au laboratoire, les artistes sont en train de récupérer un travail qui est en fait notre travail. Alors là, c'est le genre de truc, il faut pas faire ça, quoi. Donc moi, je lui dis, est-ce que tu peux me donner la lettre? Il dit, non, mais il n'y a pas de problème. Je lui dis, bah, j'espère bien qu'il n'y a pas de problème. Nous, on est venu là, on va montrer notre travail, et c'est notre travail au sens de notre large, quoi. Mais moi, la lettre, je la garde. Et la fille, je l'ai appelée parce qu'elle est venue une fois. Hein. On a fait un mois et demi de... Nous, on y allait tous les jours. Donc je lui ai dit, en fait, là, ça va pas. Ça va pas ce que tu viens de faire. On fait pas des trucs comme ça, quoi. Et elle m'a dit, mais attends, tu te rends compte, vous faites tout ça, les artistes, en fait, vous servez de la parole des autres. Et je lui ai dit, mais et vous, les chercheurs, vous faites quoi, en fait? Donc je lui ai dit, en fait, tu vas nettoyer devant ta porte, devant la science, va nettoyer devant la science, et tu viendras voir les artistes. Ça suffit, quoi. Et moi, je me suis fort disputée. Hein. Là, j'étais vraiment pas du tout d'accord. Et Sarah Mikjean, avec qui on avait œuvré, qui est ma camarade, elle m'a contactée, et je lui ai dit, en fait, moi, je suis pas d'accord. Là, il y a un malaise, mais c'est même pas un malaise, c'est le feu. Il y a le feu, il y a la colère, quoi. Ça brûle. Et Sarah, elle a été super. Elle a dit, en fait, ça veut dire que là, il y a quelque chose à penser. Et moi, Sarah, elle m'a connectée à ce que, effectivement, je pense maintenant être la recherche. Comment tu penses, en fait? Et à quoi ça sert d'avoir des expériences et de cheminer dans les expériences? Donc, bah, on a dit, bah, ce problème, on l'a en commun. On va l'ouvrir pour pas être toutes les deux toutes seules. Et on est allé chercher d'autres gens et on a fait ce truc des banquets, des transformations.
Et donc, c'est quoi un banquet des transformations?
Bah, c'était des temps de partage où on invitait spécifiquement des gens qui répondaient dans leur pratique à cette inquiétude qu'on avait d'asymétrie et de décalage fort entre quelqu'un qui participe et qui en fait amène tous les éléments et puis quelqu'un qui manie et qui fait le traitement, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire d'aller travailler avec des gens qui sont en situation de demande d'asile, mais qui sont en même temps assignées par les mêmes politiques publiques qui sont celles qui vont financer des activités artistiques ou des métiers de la recherche. Ça crée des asymétries qui sont extrêmement violentes. Banquet des transformations. Moi, je me disais, on va transformer. On va y arriver, quoi. On va se partager nos recettes et on va transformer. Mais c'est vrai. Nous, ça nous a transformé nos pratiques. On arrêtait de faire de l'extraction de données chez des gens et puis on s'est mis à faire des œuvres en commun, en co-auctorialité. Et Olive et Patrick, on les a invités pour ça au début. Parce qu'en fait, Patrick Bernier et Olive Martin avaient un camarade qui avait été placé en centre de rétention, je crois, et qui était chanteur traditionnel, je crois. Et il faisait ce travail, parce que c'est des chants qui se font à deux ou trois, avec un autre chanteur qui, lui, était résident français. Et en fait, quand celui qui n'avait pas les papiers de citoyen français a été renvoyé dans les cases de la non-légitimité à être en France, ils ont creusé le problème sur la question légale du droit d'auteur et de la propriété de l'œuvre. Donc ils ont invité une avocate du droit des réfugiés, du droit des étrangers, pardon, Sylvie Proslosinotte, qui est une super avocate, et Sébastien Canvet, qui a écrit sur le droit d'auteur à l'ère du droit numérique. Donc, ces deux avocats, en fait, ils ont inventé une pièce qui est une performance, qui est un spectacle, en fait, qui est super beau, où nous, public, on est mis à l'endroit du juge, on est assis ensemble, et puis, il y a ces deux avocats qui portent l'habit des avocats qui se mettent devant nous dans la cour. Nous, on les a invités dans l'ancien tribunal de Grenoble. Alors, c'était vachement beau. Et puis, ils ont un cahier de pièces juridiques. Ils exposent le fait que, effectivement, ce qui n'est jamais le cas dans les cours, on accueille là quelqu'un qui va être étudié selon le droit des réfugiés. Mais l'avocat du droit des réfugiés expose le fait qu'en fait, cette personne n'est pas que à étudier selon la Convention de Genève, mais aussi, il a une pratique en France. Et là, elle passe la parole à Sébastien Canvet, qui explique comment, en fait, l'œuvre dépend de la co-présence de deux personnes selon le droit du libre, selon etc., etc. Tout le monde a constaté, il y a des documents qui disent qu'en fait, il y a eu des atteintes à l'intégrité de l'œuvre parce qu'un des co-auteurs ne pouvait pas être là à cause de l'administration française. Donc, en fait, ça coupe le patrimoine culturel, pour parler très bêtement, de ses capacités. Donc, les gens, ils n'ont pas à aller à l'OFPRA. Ils vont pas à l'OFPRA, ils vont pas à la CNDA, ils vont pas en centre de rétention, ils vont au théâtre, sur scène, ils vont montrer leurs œuvres. Ils sont auteurs, on les attend. Donc, ils y vont, quoi. Et en fait, ce livre, qui est en fait le livret qu'on dépose au juge, avec toutes les pièces, nous, il nous a énormément inspirés, quoi. On s'est dit, mais c'est évident, c'est génial, quoi. On doit faire des œuvres signées en co-auctorialité qui créent un dissensus et un problème dans les cours administratives. On le fait, quoi. Et je vois, par exemple, ce qu'on œuvre maintenant avec les camarades co-auteurs du bureau des dépositions, qui sont donc tous souvent en OQTF ou en situation de demande d'asile dans des chemins administratifs terribles. Alors, c'est pas illégal, hein, ce qu'on fait. Mais en tout cas, on met le droit contre le droit.
Et c'est quoi le bureau des dépositions? Pourquoi ça s'appelle comme ça?
Parce que un ensemble de personnes qui étaient maltraitées par les politiques migratoires s'étaient mis en collectif et ils ont occupé l'ancienne fac de droit. Alors, on est allé et moi, j'ai dit, on devrait leur demander si on peut, avec eux, monter un bureau des dépositions. Ça veut dire un endroit où on fait un recueil de lettres, où on lève les responsabilités. Parce qu'on vit dans une société qui atomise et qui renvoie la responsabilité toujours à chacun, à soi. Et donc, par exemple, les gens, quand ils traversent une frontière alors qu'ils n'ont pas le droit de la traverser, en fait, ils rentrent dans l'expérience des voyous clandestins. Ils sont mauvais. C'est un truc d'expérience intime. Mais c'est ancré pour toujours. Donc, on a décidé qu'on allait faire des lettres qui allaient lever les responsabilités. Qui c'est qui est responsable, en fait, de l'interdiction qui est structurelle, qui est mortifère et qui empêche et qui tue aux frontières. Mais pas que aux frontières, parce qu'en fait, les gens, ils meurent dans la rue après, plus loin, quoi. Et on a cherché des financements pour se payer tous. Et puis après, on s'est dit, on va faire une œuvre immatérielle. Parce que légalement, nos lettres peuvent se substituer à nous. Les copains peuvent être tués. C'est pas grave, il y a les lettres. Si on faisait une œuvre immatérielle, processuelle, une performance, ils ne pouvaient plus les foutre à la prison ou les envoyer en Italie. On ne pouvait plus, puisque l'œuvre, il faut qu'on soit là, tous ensemble. Et c'est comme ça qu'après, on a fait exercice de justice spéculative. Pour qu'un jour, ben, cette œuvre nous protège, peut-être. Mais elle travaille déjà la protection. Ça me passionne. T'as vu ? Je suis passionnée, là. C'est bizarre, hein? Moi, je rêve qu'il y ait une étape qui se passe vraiment dans la cour de justice, quoi. Et qu'en fait, le co-auteur ou la co-autrice, ça devienne un juge. Qui dise, oui, en fait, oui, ce sont des co-auteurs. Ces personnes ne peuvent plus être appelées comme ça. Elles doivent pouvoir, à tout moment, travailler leurs droits à l'expression, leur droit à la créativité, qui en fait est inaliénable. T'en rends compte ? T'en rends compte, le truc ? Donc j'avais dit à Kobe, mais comment on pourrait faire pour qu'une œuvre elle soit accessible à tous ? Comment ça pourrait exister, ça ? L'œuvre de tous ? Comment on fait ? Parce que du coup, elle aurait pu protéger tout le monde. Et il m'a dit, non, pas du tout, Marie, t'es complètement con, ça marche pas du tout, ton truc. Le droit, la loi, passe par des cas uniques, singuliers, toujours. Donc il faut que t'assumes que, en fait, bah, c'est un ensemble arrêté de co-auteurs. Mais après, la recette, elle va occuper comme un fantôme la conscience des autres et elle fera d'autres formats. Donc oui, l'errance ou l'espace, mais c'est que... C'est des bords, en fait. Finalement, c'est refaire des bords, mais qui changent effectivement à chaque expérience. Et par exemple, les cartographies brodées, géographie intérieure, l'expérience de ça, mais ça a changé le bord. Et après, t'avances, c'était une autre expérience, et tu rechanges les bords. Ben, c'est fascinant, quoi. Il n'y a pas un chemin pré-tracé, quoi. Il n'y a que des... C'est vrai, il n'y a que... dérouler, mais il faut avoir confiance, c'est vrai qu'il faut avoir confiance en soi, quoi, et dans les autres, en fait. C'est pour ça qu'il faut beaucoup, je sais pas après ce que c'est l'amour, tu vois, ou le... mais moi, mes camarades, là, bah, le fait qu'on s'aime, et on en a beaucoup parlé, hein, parce que nous, il y a des questions, par exemple, post-coloniales, très compliquées, quoi. Enfin, nous, on est 2 filles blanches et 8 garçons qui sont originaires de Guinée, Eh ben, on a dû en parler, en fait, il faut en parler, et c'est dur, quoi. L'ensemble des co-auteurs, on n'est pas du tout d'accord, hein. Plein de fois, hein. Mais c'est la palabre, t'es pas d'accord. Ils connaissent, ils nous ont dit, c'est l'expérience de la palabre.
Et la prochaine étape, qu'est-ce qui va s'y passer ?
Ben là, on travaille sur un contrat qu'on dit ensemble, où on explique en quoi on s'engage. C'est quoi les articles de ce contrat qui me lient aux autres ? Et qu'est-ce que c'est un contrat, en fait ? Et par ailleurs, on parle aussi des contrats qui sont pratiqués sur la tête des autres co-auteurs. Parce que le contrat, par exemple... national qui est signé à l'OFPRA ou à l'OFI, où les gens signent mais sans avoir eu droit à changer un article. C'est pas vrai, c'est pas un contrat. Un contrat, théoriquement, tu contractualises. Un contrat, ça change, puisque tu changes. Bon, bah nous, on essaye de parler de ça, quoi. Et de dire qu'en fait, ce contrat, c'est l'œuvre.
Et c'est un groupe qui se trouve à Grenoble ou à différents
endroits ? Ben maintenant, ouais, quasiment tout le monde est à Grenoble, avec des déplacements, quoi, mais... Il y a Ousmane Kouyaté, qui est chercheur en sciences politiques, qui a obtenu un permis de séjour, et qui fait une recherche sur la question des politiques migratoires aussi. Ben Bangoura, qui a aussi obtenu un droit d'asile. Mamie Kaba aussi. Récemment, il y a Mamadou Tchouné Bandé. Et puis après, d'autres personnes qui sont dans des espèces de vagues administratives. Là. Il y a Aliou Diallo, Raphaël Mondekeno. Et Diakité Lai, je crois que c'est pareil, c'est un creux pour l'instant. C'est en attente. Et Pathé Diallo. Pathé Diallo, il a écrit un très beau texte dans Libération sur la clandestinisation du travail par Uber et tout. Où il explique en fait hein, comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, ils travaillent tous sur les vélos. Hein. Tous les copains, ils travaillent sur les vélos. Et ils n'ont rien signé puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler. Mmh. Voilà. Mais... si tout le monde se met à faire ça, à signer des œuvres avec des gens maltraités par les politiques publiques, eh ben, ça va peut-être changer un peu, je ne sais pas moi. Au lieu de se cacher, on n'a pas à séparer les gens et on va faire les œuvres. Voilà, on y va. Mais on devrait faire ça pour les questions d'environnement. Hein. On devrait faire des œuvres qui nous lient à des territoires. C'est-à-dire bah, tu fais une œuvre qui en fait te lie à un territoire où il ne peut plus y avoir de mise en œuvre toxique de l'environnement. On devrait faire des œuvres, je sais pas moi, des œuvres quoi. Comment on pourrait faire? Bon, c'est pas grave, on verra plus tard.